secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar, avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisé par Clotilde Pivin, préparé par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Philippe Bredin. Aujourd'hui, je reçois Ali Ben Makhlouf et Jean-Baptiste Brenet pour nous parler de la philosophie arabe. Pourquoi la lire? Pourquoi la redécouvrir ou la découvrir tout simplement? En quoi cette épreuve de l'étranger, pour reprendre une expression d'Antoine Berman, peut nous faire avancer dans la connaissance de nous-mêmes et de notre propre rapport autant à la philosophie qu'à l'histoire de la philosophie. Ali Ben Makhlouf, vous êtes professeur de philosophie à Paris-Est Créteil et infatigable passeur de la passion philosophique qui vous anime. Auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Averroès, aux belles lettres en 2000, Montaigne, toujours aux belles lettres en 2008, ainsi que L'identité, une fable philosophique, chez PUF en 2011. Et on voit d'après ces quelques titres, il y en a beaucoup d'autres, mais je n'ai sélectionné que cela. Donc d'après ces titres même, on voit que votre préoccupation est de considérer l'histoire de la philosophie comme une chaîne continue de la pensée humaine et de l'effort vers la connaissance de soi et du monde. Et que cette pensée se soit déployée d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, en latin, en grec, en ancien français ou en l'occurrence en arabe, pour vous l'enjeu reste toujours le même, la philosophie. C'est ce que vous essayez de mettre en lumière d'une manière que j'ai trouvée très fine et très précise dans votre dernier ouvrage « Pourquoi lire les philosophes arabes » publié chez Albin Michel en 2015. Jean-Baptiste Brenet, vous êtes vous aussi professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous enseignez plus précisément l'histoire de la philosophie arabe. Vous êtes spécialiste particulièrement d'Averroès et de son héritage latin et vous avez publié notamment « Transfert du sujet, la noétique d'Averroès selon Jean de Jandun » en 2003 et « Les possibilités de jonction, Averroès, Thomas Wilton » en 2013. Vous dirigez la collection « Translatio, philosophie médiévale » chez Vrin. Autant dire que vous êtes de plein pied dans la réflexion, et je l'entends dans les deux sens du terme, le sens étymologique et le sens actuel, donc dans la réflexion sur les jeux de miroir entre la tradition arabe et la tradition latine, sur la manière dont les courants de pensée se sont mutuellement nourris d'Orient et d'Occident, entre monde grec à nouveau, monde musulman et chrétienté, mais aussi entre monde ancien et monde moderne, puisque dans votre dernier ouvrage, Averroès l'inquiétant, paru aux belles lettres en 2015, vous appliquez une grille de lecture freudienne sur le débat métaphysique qui a lieu depuis des siècles entre Averroès, tel que les latins l'ont compris, et la philosophie, alors occidentale, chrétienne, on va peut-être en discuter. Ce faisant, vous nous renvoyez en fait à nous-mêmes. Vous poussez votre lecteur à évaluer ses propres choix métaphysiques à la lumière de la psychanalyse. Mais je rassure tout de suite nos auditeurs, nous n'allons pas ici nous livrer à un exercice de métaphysique comparée et nous allons essayer au contraire de brosser un tableau en fait intellectuel, philosophique et peut-être spirituel de cette histoire entre nous et cette philosophie arabe. Alors on va peut-être commencer par le commencement, Ali Ben Makhlouf, et essayer de comprendre ce que nous entendons par philosophie arabe. Et pourquoi vous dites philosophie arabe l'un et l'autre? Puisque vous aussi, Jean-Baptiste Brenet, vous êtes professeur de philosophie arabe et non pas musulmane. Donc quelle distinction entre arabe et musulman? Puisque dans le public général, on a tendance plutôt à penser que arabe égale musulman.
Oui, merci. Vous avez juste souligné l'enjeu de la traduction et donc l'enjeu linguistique. Et il est vrai que quand on prend les premiers philosophes arabes du Moyen-Âge qui se sont lancés dans cette entreprise de constitution d'un vocabulaire philosophique, je pense à Al-Kindi, 9e siècle, eh bien il a écrit un plaidoyer pour la traduction, pour l'arrivée dans la langue arabe des concepts qui ont été maniés, travaillés dans la tradition grecque, mais la tradition grecque sur le long terme, c'est-à-dire aussi bien de Platon à Aristote jusqu'aux philosophes alexandrins, à la veille de, on va dire, de l'avènement de l'islam. Et donc, philosophie arabe, philosophie musulmane, je dirais philosophie arabe Absolument. En raison de cette traduction et de cette constitution d'un vocabulaire philosophique dans la langue arabe, mais dans une atmosphère religieuse qui est celle de l'islam, puisque c'est tout de même dans cet horizon de l'avènement d'une nouvelle religion que s'est constitué des centres urbains de traduction et d'échange qui ont fait que la langue arabe s'est trouvée portée d'abord par les sciences traditionnelles d'exégèse religieuse et de grammaire, grammaire pour justement se débrouiller dans le texte sacré quant aux prépositions notamment qui sont polysémiques. Et, bien évidemment, après, le relais a été pris par, entre guillemets, les sciences profanes, dont la philosophie, entendue en un sens très large, de connaissance des choses en leur vérité, dont l'optique aristotélicienne. Donc, philosophie arabe, certes, dans une atmosphère religieuse musulmane.
Alors, vous avez évoqué, justement, la philosophie grecque, tout de suite, c'est-à-dire la philosophie arabe, en fait, elle commence dans la philosophie grecque. Jean-Baptiste Brenet, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors que, précisément, Ali Ben Makhlou vient de nous dire qu'il y avait ce contexte religieux, donc d'explication du monde d'un point de vue religieux dans ces premiers siècles de l'islam, pourquoi les Arabes, et qui à l'époque étaient aussi, ils se trouvaient être aussi les musulmans, les premiers musulmans, ou les musulmans des premiers siècles plutôt, ont eu ressenti le besoin d'aller chercher chez les Grecs des outils de pensée qui ont finalement été le fondement de ce qu'on appellera plus tard la philosophie arabe.
Effectivement, il faut pointer que les Arabes n'ont pas été les héritiers passifs du savoir grec. En vérité, ils sont allés le chercher en fonction de questionnements qui leur étaient propres. C'est une chose fondamentale de voir qu'il y a eu un besoin qu'on pourrait dire autochtone, lié effectivement à la mise en place de l'islam, qui a posé des questions de politique, de gouvernement, ou des questions propres à l'islam, celles des attributs de Dieu. Et c'est en fonction de ces premières exigences nouvelles que les Arabes sont allés chercher ailleurs un bagage, un outillage conceptuel qu'ils n'avaient pas tout de suite à disposition et qui a dû se baser sur un effort de traduction sans exemple auparavant.
Oui, mais alors justement, est-ce que c'était pas un peu paradoxal que ces premiers philosophes, les premiers traducteurs, eux-mêmes étaient inscrits dans une foi? Il n'était pas question évidemment de remettre en doute leur vision religieuse du monde. Y a-t-il pas un paradoxe à aller chercher chez des païens quelque chose qui va venir se surajouter, je dirais, à la connaissance dans un sens très large, tel que conçu dans le contexte musulman, Jean-Baptiste Brenet?
Il y a un exemple célèbre avec le couteau, c'est-à-dire on ne demande pas d'où vient le couteau quand on pratique le rite. Mm-hmm. Hein, c'est l'idée que, au fond, les concepts ou l'outillage conceptuel revêt une certaine neutralité et qu'on peut donc en user, quelle que soit sa provenance, dans telle ou telle religion. Et au fond, les Arabes ont eu intelligemment l'idée qu'ils étaient quand même les fils d'une longue histoire, l'histoire de l'humanité totale, et qu'ils avaient eux aussi à bénéficier de ce qui s'était déjà fait, parce que s'il revenait à chacun de reproduire l'intégralité du savoir, eh bien, on mourrait avant de commencer quoi que ce soit. Donc ils étaient de toute façon dans une urgence telle qu'il fallait prendre l'instrument là où il était, étant entendu que cet usage de ces instruments grecs ne devait pas remettre en cause les fondements du dogme.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste Brunier sur le besoin. Besoin qui est aussi un combat pour la pensée beaucoup plus que pour la culture. Et je crois que nous avons tendance aujourd'hui, avec le recul, de parler de cette culture arabo-musulmane et de ne pas peut-être évaluer suffisamment le combat pour un territoire de pensée. Et le combat pour un territoire de pensée, c'est situe précisément ces philosophes dans un terrain qui n'est pas proprement un horizon culturel, mais la recherche de schèmes, de catégories de pensée que l'outil philosophique grec leur a permis en quelque sorte de confectionner, et cela passe par la constitution d'un vocabulaire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que nous pensons en langue et dans les langues, comme dit Barbara Cassin, et précisément ce niveau de faire remonter dans la langue la constitution d'un vocabulaire fut un combat pour un territoire de la pensée, beaucoup plus que pour ce que l'on dit d'habitude, dialogue des cultures, dialogue des civilisations. Non, ce n'est pas la question des dialogues. D'ailleurs, moi, je pense que le dialogue se passe comme là, aujourd'hui, dans votre émission, entre des personnes. C'est toujours un peu surfait ou difficilement repérable, un dialogue des cultures, des civilisations. Et donc, en revanche, il y a véritablement un trésor commun de pensée dans l'humanité, qui permet en quelque sorte de traverser les cultures beaucoup plus que d'avoir pour objet les cultures. Si bien que, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, je vous en remercie d'être un penseur continuiste, cette continuité entre la tradition prophétique de la parole inspirée et la tradition philosophique de la parole argumentée, c'était véritablement leur souci. Beaucoup plus la conciliation entre la parole venue de la prophétie, et en l'occurrence de la prophétie mohammedienne, de l'islam, et la parole de l'argumentation la plus serrée, celle de la philosophie première, celle de la métaphysique, celle de la constitution de cet outil parmi les outils, si je puis dire, de l'intellect à l'aql, qui n'est pas le cogito cartésien, qui est justement cette puissance qui pense toujours et dans laquelle on s'arrime à hauteur de notre effort. Et à partir de là, le dogme prend tout naturellement sa place dès lors que la pensée ne renonce pas à ses droits.
Oui, et donc c'est le statut, alors vous dites de l'intellect, effectivement vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut bien distinguer dans cette tradition la raison de l'intellect, il faut plus parler d'intellect que de raison, mais néanmoins pour employer un langage d'aujourd'hui, je dirais, et à cause de ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire des choses aussi absurdes, je sais bien qu'il faut pas toujours répondre à des questions absurdes, mais néanmoins j'ai entendu dans la bouche de gens qui sont même des philosophes, que je ne nommerai pas, enfin des personnes qui sont normalement instruites, me dire qu'il est que l'islam, par exemple, rejette absolument la raison au nom du dogme et au nom de la révélation. Voilà ce dont je voudrais bien que l'on parle, mais brièvement peut-être, mais quand même de mettre les points sur les i, c'est cette question de bien montrer que la tradition musulmane, au fond, bien avant la tradition chrétienne, et ça, Jean-Baptiste Brenet va peut-être nous en dire un mot, s'est préoccupé du primat de la raison. C'est même d'ailleurs une façon d'interpréter le texte coranique, il me semble.
Alors effectivement, permettez-moi de reprendre ce point et d'y répondre par un argument qui est souvent présent dans votre émission, c'est la notion de la sagesse. C'est-à-dire qu'ils ont été, ces philosophes, et je pense à Al-Farabi, 10e siècle, je pense à Al-Kindi que j'ai cité, 9e, je pense à Averroès, 12e, Tardif, tous ont été chercher le mot sagesse tel qu'il figure dans le texte coranique, et donc de montrer que le texte coranique est traversé par de la pensée, c'est ça votre question, et par une pensée rigoureuse. Le texte coranique dit « Nous avons fait descendre sur vous le livre et la sagesse ». Et donc il y a tout un travail sur cette conjonction, le livre étant le texte sacré, et la sagesse, ont-ils dit, eh bien c'est tout simplement ce à quoi ont appelé tous les philosophes autrefois. Et donc, du coup, la philosophie se trouve arrimée complètement au texte sacré par cette labellisation de sagesse. Et pour eux, c'était une immense stratégie, dont je parle dans mon livre, de labelliser philosophie ce que le Coran appelle « al-hikma », la sagesse. Et c'est ainsi que la philosophie se trouve incorporée par un geste sémantique de mettre en équivalence le mot de sagesse et le mot de philosophie. Le mot de sagesse tel qu'il figure dans le texte sacré et le mot de philosophie tel que falsafa, tel qu'il est repris de la langue grecque. Et beaucoup d'argumentations philosophiques vont se trouver en quelque sorte appuyées par des versets coraniques sporadiques, isolés, dont on ne va pas chercher, à la manière d'un théologien, d'en donner l'exégèse, mais que l'on va prendre comme appui de compatibilité complète avec la parole, ce que j'ai appelé la parole argumentée des philosophes.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, alors l'un et l'autre qui est spécialiste de philosophie arabe, est-ce qu'on peut dire que cette tradition, elle a perduré dans la modernité, Jean-Baptiste Brenet ?
Sous la forme médiévale ou disons classique qu'on a connue, certainement pas. il faut constater qu'il y a eu un déplacement de la sagesse de l'Occident à l'Orient au moins, et que si Averroès, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, n'a pas été le dernier acteur de la philosophie dans l'Europe en train de se faire, ou disons dans l'islam occidental, la philosophie, la sagesse s'est surmultipliée en Orient lorsqu'elle commençait de s'éteindre en Occident. Reste que, depuis le XIXe siècle, évidemment, le monde arabe tâche, à raison, de se réapproprier cet héritage en faisant d'Averroès l'une de ses grandes figures. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle aussi, nombre d'intellectuels, lisant parfois Averroès dans des directions contraires, ont tâché de relancer la figure rationnelle qu'il a pu être au XIIe siècle pour le monde arabe et pour les mondes juifs et latins.
Et comment expliquez-vous cette difficulté que le monde arabophone, je ne vais pas dire arabe en fait, puisque évidemment cette philosophie arabe, elle a été pratiquée par nombre de personnes qui n'étaient pas ce qu'on appelle des arabes. Ils étaient arabophones, mais ils étaient perses ou indiens ou qu'importe. Comment expliquez-vous que donc le monde arabophone, mais aussi le monde persanophone, je parle en terre inconnue, pourquoi ils n'arrivent pas à réactiver cela? Pourquoi ils n'arrivent pas à réactiver, Ali Ben Makhlouf, ce germe, enfin même cette floraison qu'il y a eu de la philosophie et surtout du règne de la raison? Alors, pourquoi on a renoncé à la raison?
Votre question est à multiples entrées, permettez-moi. La première entrée, c'est que mon travail ne s'est pas arrêté à Averroès. Je
Bien
cite Ibn Khaldoun, oui. 14e siècle, et je cite...
Moulla Sadra.
Sadra, je cite Suyuti, et au 16e siècle, et je cite également le 20e siècle, le début du 20e siècle, Ali Abdelrazek, comme philosophe théologien, qui a fait un geste spinoziste de remettre à jour complètement Ibn Khaldoun dans une lecture du texte sacré à la manière de ce qu'avait fait Spinoza au XVIIe siècle. Donc, il y a véritablement une continuité, même si elle n'apparaît pas sous la forme de grandes figures fondatrices comme le furent Al-Farabi, Avicenne, Averroès. C'est un peu comme si on le disait, le XVIIIe siècle français avec les grandes figures n'a pas eu de grande continuité, mais c'est parce que par moment il y a une cristallisation, une condensation, et après il y a une détente argumentative.
Oui,
ça c'est ma première réponse. Mais la deuxième réponse, pas de renoncement à la raison du tout, parce que en réalité tout ce savoir a été totalement incorporé et anonymisé dans la tradition de la Renaissance, à partir de Pic de la Mirandole, 1485, il a tout de même dans son texte sur la dignité humaine, il cite tous les grands philosophes, et donc cette incorporation dans l'Occident a fait qu'il n'y a pas eu déjà de perte de cet héritage. Je crois que c'est important. Et qu'il y ait eu après un immense moment de la colonisation ottomane a fait perdre, non pas l'héritage philosophique, mais le médium arabe. Et donc, je crois qu'il faut faire une différence entre le fait qu'on a moins écrit en langue arabe, mais il n'y a pas eu pour autant de renoncement à la raison. Il y a eu, en revanche, beaucoup moins de textes de la période ottomane traduits en latin, en français, en anglais, qui ont fait croire, de notre point de vue ici, parisien, Oxford, Padoue, qu'il y a eu en quelque sorte comme un laisser-aller, renoncement, etc. Ce n'est pas parce qu'on a fortement traduit les philosophes médiévaux et moins traduit les passeurs d'après qu'il n'y a pas eu de passeurs après. En fait, d'Averroès à Ali Abdelrazek, 20e siècle, il y a eu plein de passeurs, il y a eu plein d'acteurs sociaux, intellectuels, importants, complètement fondus dans la société, qui ont fait un travail de collecte des manuscrits, de marge et de travail sur les manuscrits. Vous savez que la pensée se fait beaucoup dans les marges. Je pense aux manuscrits de Tombouctou, je pense à Lax, Tlemcen, Oran, Grenade, Fès, Tombouctou, qui est véritablement un axe de culture extraordinaire jusqu'à la colonisation française. On n'imagine pas le nombre de textes qui sont passés par là. Alors on dit depuis Averroès rien. Non, ça c'est malheureusement l'adage qui a été complètement conforté par Averroès et l'averroïsme de Renan. Renan, c'est Renan qui a lancé cette idée que le monde arabe s'est assoupi depuis Averroès. Je cite, il a répété Dieu et Dieu sous forme d'une tautologie pendant 600 années et il s'est réveillé avec la colonisation de l'Égypte par la grande expédition de l'Égypte de Napoléon. Je conteste complètement l'idée que pendant 600 années, il ne s'est rien passé. Le médium arabe s'est affaibli en raison de la colonisation ottomane de la plupart des contrées arabes, mais ça ne veut pas dire que les gens ont tourné le dos à la raison. Et ils ont bien continué à régler leurs affaires quotidiennes de tous les jours, et certainement pas en répétant Dieu est Dieu.
France Culture, les racines du ciel, les lions verts.
Jean-Baptiste Brenet, vous expliquez dans votre livre, donc dans Averroès l'inquiétant, vous commencez comme ça en fait, vous dites, c'est presque trop évident, comme il y eut une difficulté de la psychanalyse, il y eut une difficulté de l'averroïsme. Avant Copernic, avant Darwin, avant Freud, il y eut cet arabe, Averroès, l'auteur d'une pensée folle sur l'intellect de l'homme. Quelle pensée? Trois thèses, l'intellect est séparé, il est un, il est éternel. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous expliquez en fait que avec sa théorie de la raison, enfin de l'intellect, la manière dont il pense l'intellect, au fond, Averroès, mal compris, a quand même été à porter pour la première fois une blessure narcissique aux philosophes, aux penseurs et globalement, je dirais, à la pensée en Occident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce paradoxe, puisque on pense aujourd'hui que les Arabes finalement ont quitté la raison depuis Averroès, alors qu'en réalité vous nous dites mais non, Averroès est celui qui a grandement inquiété tout le monde chrétien, tout l'Occident chrétien, à cause de sa perception, enfin de ce que eux ont perçu de sa théorie de l'intellect.
Mais ce qui est sûr, c'est que la raison, c'est peut-être le terme central, ou l'intellect, le terme central de toute la pensée d'Averroès. Il y a d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, une grille de lecture, hein, l'Unheimlichkeit, l'inquiétante étrangeté. Pour moi, c'est une manière de lire la figure européenne, la figure latine d'Averroès. Il y a un fait, d'abord, c'est qu'Averroès traduit en latin toute l'Europe en train de se faire l'a lu. Et un constat, c'est que cette Europe qui n'a cessé de le lire, l'a très violemment condamné sur certains points, et n'a cessé de revenir sur cette condamnation, faisant d'Averroès une sorte d'anti-héros, d'astre noir, de figure spectrale, revenant au cours des siècles comme un épouvantail en arrière-fond pour manifestement continuer d'angoisser l'Europe qui ne cessait de dire qu'elle n'avait plus rien à faire de la scolastique ou des penseurs de la période passée. Donc moi je me suis intéressé à cela, j'ai essayé de comprendre ce qu'Averroès, comment on pouvait essayer d'analyser, d'approcher ce qu'Averroès avait représenté pour l'Europe et la modernité qui était en train de se constituer. Quand je parle de blessure narcissique, c'est parce que par sa doctrine de l'intellect, effectivement Averroès a posé un certain nombre de questions, qui sont des questions toujours actuelles d'ailleurs, celles que même en science on continue de se poser, que l'Europe n'a pas réussi à résoudre contre lui, elle n'a pas réussi au fond à le faire taire, à faire taire la pertinence du questionnement radical qu'il insinuait et qui revenait effectivement à mettre en cause la nature de l'homme, sa place dans le cosmos, son rapport à Dieu, son rapport à sa pensée, autant de choses que cette Europe qui se dirigeait sans le savoir vers Descartes, vers le cogito et sa maîtrise, autant de choses que cette Europe probablement ne voulait plus tellement entendre parler, une Europe qui par ailleurs était probablement soucieuse aussi de gommer, de biffer l'héritage dont Averroès était le porte-étendard. Comme pour se donner l'impression, même si la référence grecque allait être là, qu'on était la source de son propre savoir. Donc Averroès est celui qui hante la raison européenne en train de se faire, en questionnant cette raison, en montrant que l'opération la plus simple qui soit, mais la plus cruciale parce qu'elle est censée définir l'homme, à savoir la pensée, au fond ne va pas de soi, est fort complexe à théoriser. Et pour cette raison, il m'a semblé qu'on pouvait effectivement parler d'une sorte de blessure narcissique du système averroïste qui vient taquiner, bouleverser l'Europe.
Oui, alors vous avez employé le terme de maîtrise, c'est-à-dire cette idée qu'on se dirige vers Descartes et vers l'idée qu'on peut maîtriser l'opération de l'intellection, enfin le cogito. C'est peut-être ça aussi, ça apparaît dans votre livre, Ali Ben Makhlouf. Est-ce que c'est pas ça qui fait que peut-être on se détourne, alors, soit d'Averroès de nos jours, s'entend, hein, soit d'Averroès, soit globalement de toute cette philosophie arabe, c'est qu'elle est, et souvent vous revenez sur plusieurs penseurs en évoquant ce thème, soit directement, soit indirectement, c'est qu'elle est d'une exigence d'ouverture sur l'inquiétante infini, qui est très difficile au fond à aborder. Est-ce que c'est pas cette ouverture-là qui est la plus inquiétante?
Vous posez tout à fait bien la question. Le problème, c'est est-ce qu'on est complètement partisan de la souveraineté de la pensée ou de la souveraineté de la conscience? La souveraineté de la pensée, c'est l'infini dont vous avez parlé. C'est l'intellect éternel. C'est-à-dire que nous, pris dans une humilité cosmique par rapport à l'univers et dans une humilité cosmique par rapport à l'intellect divin, nous sommes de temps en temps des êtres susceptibles de nous connecter à l'intellect. Mais la plupart du temps, nous regardons la télévision, nous rigolons, nous ne mettons pas en action pleinement une intellection forte qui va vers les théorèmes, les lemmes, qui va vers les grands principes de la dialectique, de la discussion ou bien de la science. Donc, l'intellect pense toujours, l'homme pense de temps en temps et rarement. Ça, c'est très étrange, comme le dit si bien Jean-Baptiste, et il y a plusieurs mentions dans son ouvrage de ce que je viens de dire. Ce décentrement, la pensée a sa souveraineté et l'homme n'en a pas de souveraineté. Alors que le schème cartésien qui va se mettre en place à partir de la Renaissance, c'est le jugement de la conscience, c'est le jeu du cogito, c'est une souveraineté non plus de la pensée, mais de la conscience. Et cette idée d'affirmer une souveraineté de la conscience est totalement étrangère à cet univers médiéval qui, effectivement, vous avez raison, le marginalise pour nous tant nous sommes encore pris dans le schème cartésien.
Oui, Jean-Baptiste Brenet.
Pour répondre à votre question brièvement, je dirais que les Arabes, effectivement, insistent sur la puissance, sur la notion de puissance. L'idée que l'homme, dans son rapport à la pensée, est véritablement en puissance, avec ce que ça comporte de chance et de risque, la possibilité étant de ne rien actualiser du tout et de rester à un état quasi bestial. Donc, ils ont insisté plus que d'autres en deçà de l'actualité totale que constituait Dieu ou le premier moteur de l'univers, ils ont insisté plus que d'autres sur la dimension potentielle de la pensée censée constituer l'homme. C'est-à-dire l'homme est véritablement, doit se rapporter à sa vie comme à une aventure qu'il s'agit de mener avec le risque de la rater ou de ne pas la mener du tout. Et c'est cela qui rend leur anthropologie si fascinante.
Oui, et peut-être aussi leur psychologie ou ce que vous appelez, Ali Ben Makhlouf, la mise en place de cette idée d'une médecine de l'âme qui fait partie intégrante de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, alors arabe ou en tout cas exprimée en langue arabe, elle insiste énormément, et vous citez beaucoup d'auteurs, d'Avicenne à Mollah Sadra, sur le fait que Bien sûr, il y a des prémices métaphysiques, il y a la logique, il y a une exigence de pensée pure, mais qu'elle ne saurait en aucun cas être séparée d'une forme de pratique qui est médecine, thérapie de l'âme. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que sagesse, philosophie se disait hekma, oui. Mais le médecin se dit aussi hakim. Donc en fait, il y a un lien intime entre sagesse, philosophie et médecine. Et vous avez tout un chapitre qui traite de cette question de la médecine de l'âme, en réalité, qui est une pratique, au fond, de l'éthique.
Tout à fait. Qui est, donc, c'est l'héritage de Galien qui est repris sur l'équilibre des humeurs, sur l'idée que, finalement, notre division âme-corps est un peu peu parlant de ce point de vue-là, parce qu'en réalité, l'âme est toujours en train d'équilibrer les humeurs du corps, parce que médecine de l'âme et médecine du corps ne peuvent pas aller en disjonction l'une de l'autre. C'est véritablement l'idée que nous sommes toujours à modérer les excès de ce que nous appellerions aujourd'hui le tempérament, la colère notamment, qui nous met hors de nous-mêmes. Mais cette modération passe complètement par un modèle très hygiénique de la gestion du corps, des pratiques alimentaires, des pratiques sexuelles. Et tout le commentaire qu'a fait Michel Foucault dans l'usage des plaisirs et le souci de soi en reprenant la tradition galiénique, et serait tout à fait intéressant de le mettre en perspective par rapport à la pharmacopée d'Avicenne dans le canon, par rapport à la médecine spirituelle de Razi, qui est toujours cet équilibre des humeurs. Et il est vrai que tout cela suppose une immense conscience d'une très grande contingence de l'homme. Jean-Baptiste Brunet vient de le dire. Vous-même, vous avez dit que c'était leur horizon anthropologique. Et cette conscience d'une contingence de l'homme va jusqu'à penser notre corps dans son existence terriblement disjointe. Vous savez, ce passage d'Avicenne que l'on cite souvent, l'homme volant, l'homme, si nous étions par extraordinaire né complètement mûr, flottant dans les cieux, eh bien, est-ce qu'on aurait conscience de nous-mêmes? Oui, même si nous aurons... Alors, ça c'est, on parle toujours de cette existence de l'âme, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la vision du corps. Et quand vous voyez tout le passage sur la vision du corps chez Avicenne, dans ce passage qui affirme l'existence de l'âme, les membres peuvent être disjoints, aucun contact entre eux, les organes sont une chose extérieure, finalement vous avez un corps totalement dissocié, complètement fragmenté, susceptible de prendre tel tour ou tel autre selon précisément l'équilibre que va lui donner cette chose permanente qu'est l'âme.
Oui, et comme par hasard, vous avez cité Avicenne, ou on peut aussi en dire autant d'Averroès. En fait, les philosophes étaient très souvent aussi des médecins. Jean-Baptiste René Averroès lui-même, il a commis un commentaire en médecine.
Encore que Averroès soit moins influent, ait été moins influent dans l'histoire qu'Avicenne, et probablement moins médecin que lui. Mais il était médecin, il a été médecin du prince aussi, et il a beaucoup écrit sur la médecine. Ce n'est pas sans doute le lieu où il est le plus original et le plus puissant. Mais il a cette idée quand même, absolument fascinante là aussi, lui qui s'intéresse tant à l'intellect séparé, lui qui s'intéresse tant à la métaphysique, qu'au fond, on ne comprend rien à l'univers, on ne comprend rien à l'homme si on ne s'intéresse d'abord à son corps. Et qu'au fond, l'homme ne pourra jamais que ce que peut son corps. Et que tout dépend, tout s'enracine, tout est lié à une complexion physique, à un naturel, pour reprendre un terme que les Arabes héritent de Platon et qu'ils relancent. Nous avons des natures, des naturels, différentes sortes de naturels, et il faut s'en soucier, il faut les classer, il faut les soigner, parce que, encore une fois, c'est sur cette base-là que s'élève le cône que représente notre pensée et la fine pointe de notre humanité. Donc ce serait vraiment faire fausse route que de croire que les Arabes n'ont eu d'intérêt que la tautologie divine dont parlait Ibn Maklouf tout à l'heure. C'est presque l'inverse. Je dirais que les Arabes sont peut-être les plus grands penseurs de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. La spiritualité désignant le spiritus, le souffle, le pneuma, le roi, désignant ce souffle qui est le véhicule de l'âme à l'intérieur du corps et qui conditionne toute nos activités de la plus triviale à la plus puissante.
Alors vous avez parlé, on a parlé là de l'intellect, on a parlé du corps, et peut-être le troisième volet auquel vous faites aussi, vous consacrez un chapitre entier, Ali Ben Makhlouf, c'est le corps civil, c'est-à-dire le corps de la cité, et la philosophie arabe a aussi beaucoup pensé à cela, c'est-à-dire à la fois donc à l'âme ou à l'intellection, à cette fonction pure de l'intellection, et puis le corps, on en vient d'en parler, mais aussi à beaucoup penser le politique, c'est-à-dire le rapport aux autres, la manière de constituer une cité. Donc la philosophie politique joue un rôle extrêmement important, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est absolument liée à la fois à la révélation et à la raison philosophique, Ali Ben Makhlouf.
Oui, par exemple, ce que l'on appelle la charia, et on en entend toujours parler, cette fameuse loi divine, elle est totalement interprétée sur la base. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ils sont tout à fait redevables au travail des jurisconsultes, les quatre grandes écoles du droit que je ne vais pas mentionner ici parce que le temps manquerait, mais j'en citerai au moins une, le chafirisme. Chafiri, au 9e siècle, a fait un travail extraordinaire, tout à fait comparable à celui d'Averroès. Averroès, je disais tout à l'heure, a pris ce passage coranique, le livre et la sagesse, Al-Kitab al-Hikma dans le Coran, en disant, nous avons le livre, le texte sacré, et nous avons la philosophie, et lui dit, la sagesse, c'est la tradition prophétique qui nous permet de nous débrouiller dans nos cités. Ça, c'est Chafiri. Donc, il prend la sagesse, et il dit la sagesse, c'est la sunna. L'un dit la sagesse, c'est la philosophie. L'autre dit la sagesse, c'est la sunna. C'est très intéressant, cette appropriation des textes pour développer une tradition. Et effectivement, la tradition juridique autour de la charia est extraordinaire. Ce n'est certainement pas quelque chose d'atemporel qu'on entend toujours, application de la charia, comme s'il y avait un code universel de cette charia. Il y a des textes, exactement comme dans la tradition hébraïque, de refonte permanente de ce qu'est vivre ensemble et le lien par le droit d'inspiration coranique, mais pas dans le contenu. C'est-à-dire que les philosophes vont insister sur l'idée que la source du droit n'est pas le contenu du droit. Donc quand on dit tel verset dit ceci, c'est une lecture totalement anachronique et complètement contradictoire, parce que le texte sacré ne présente pas de contenu juridique. En revanche, il est une source pour penser le droit.
Une source est peut-être aussi une visée ultime, c'est-à-dire au fond, l'idée c'est qu'il faut être juste.
Tout à fait.
Et qu'il faut établir une forme, sinon d'égalité, au moins de justice et de fraternité sociale, Jean-Baptiste Brunet.
Pour revenir au départ de votre question, le premier grand philosophe arabe que fut Al-Farabi a écrit un régime politique. Et les Arabes n'ont pas connu les politiques d'Aristote. Ils avaient des fragments, enfin un digeste de la République de Platon dont ils se sont servis pour élaborer, en tenant compte évidemment de l'islam, pour élaborer leur doctrine politique. Et il est très intéressant, quoi qu'il soit parfois difficile d'en comprendre exactement le sens, mais de voir que Farabi dit, par exemple, que le chef politique, le premier, le dirigeant, eh bien, c'est celui qu'on doit appeler aussi l'imam, faisant converger ainsi les deux sources possibles en islam. Donc, il y a cette tradition-là à partir de Farabi, qui se retrouve dans toute l'histoire arabe. Ibn Bajjah le lit, Avicenne le lit aussi, bien sûr, Averroès le reprend, chacun l'aménageant de façon différente. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu de philosophe arabe qui n'ait essayé de produire, très différemment de ce qui se passera d'ailleurs chez les Latins, de produire une théorie de la cité parfaite. La cité parfaite étant celle qui conduit chacun au bonheur autant qu'il le peut. C'est-à-dire qui permet à chacun d'actualiser autant que possible son humanité.
Oui, donc il n'y a pas de contradiction à être à la fois musulman et avoir des valeurs de la citoyenneté.
Non,
pour aujourd'hui.
C'est presque l'inverse pour ces penseurs-là, puisque non seulement il n'y a pas contradiction, mais l'islam est même considéré par eux comme la meilleure des religions, c'est-à-dire la religion la mieux à même de produire une société capable de rendre heureux un maximum de gens.
Ali Ben Makhlouf.
Oui, je suis très sensible dans le texte d'Al-Farabi, celui par exemple le livre de la religion que j'avais édité, Kitab al-Millah, où il ne cite jamais la religion musulmane, où il montre simplement combien, comme dirait Léo Strauss, comme disait Léo Strauss au XXe siècle, combien nous avons besoin d'une philosophie de la religion. Et la religion, en réalité, dit qu'effectivement, elle peut donner lieu à un chef qui est le chef d'une communauté, mais ce chef de la communauté, il peut pas avoir tout défini en une fois. Et donc, il y a une contextualisation, il y a un travail historique de la loi qui fait qu'on apporte des ajouts, on fait des retranchements. Et si imiter le premier législateur, ça a un sens, dit-il, ça ne peut avoir un sens que de l'imiter dans l'acte de la législation, dans la mesure où chacun adapte à sa société la loi. Avec cette idée très importante que si on se met dans le travail de la jurisprudence, cette fois-ci, et pas de la législation, on doit avoir une excellente connaissance de la langue, la sienne et celle des premiers législateurs, une excellente connaissance de la logique, et donc, en fait, avoir un rapport encyclopédique et non pas ce rapport immédiat d'ouverture d'un texte et de dire « voilà, c'est écrit, ça veut dire cela ».
Oui, c'est-à-dire que la sagesse, elle se construit en fait sur un savoir, elle n'est pas dans le vide. Oui, Jean-Baptiste Brunet.
Ce que dit Ali Ben Makhlouf est très important et montre bien que tous les penseurs arabes ne disent pas la même chose. Si l'on prend les deux figures très proches, par ailleurs, que sont Al-Farabi et Averroès, Al-Farabi, effectivement, ne parle pas de l'islam comme de la religion vertueuse qu'il s'agit de mettre en œuvre dans la cité parfaite. On a plutôt l'impression que cette mille-là, elle est à bâtir. Peut-être au fil du temps, elle est à établir, et seul le métaphysicien, seul le philosophe parfait, sera au fond le chef religieux qu'il faut à la bonne cité. À l'époque d'Averroès au XIIe siècle, quand même plus tard, la situation a un peu changé, et Averroès, lui, considère, comme je le disais tout à l'heure, que cette religion, la meilleure, existe et que c'est l'islam. Les autres religions ne sont pas mauvaises, les autres religions ne sont pas fausses, mais l'islam est la meilleure des religions, déjà là, déjà à l'œuvre, qui cimente comme il faut la société, dans son ordre pratique, dans la dimension de la vertu, pour permettre aux métaphysiciens et aux philosophes de conduire les meilleurs jusqu'à la philosophie. Donc tous les penseurs sont soucieux de philosophie et de politique, pardon, et de l'accord entre politique et religion, mais tous n'ont pas quand même le même discours sur cet accord et sur la nature de cette religion à pratiquer.
Merci beaucoup Ali Ben Makhlouf, Jean-Baptiste
Merci.
Brunet,
Merci bien.
D'être venu aux Racines du Ciel nous parler de cette philosophie arabe dont il y aurait encore beaucoup à dire. Bonjour Virginie, que nous avez-vous apporté cette semaine pour l'agenda culturel ?
Bonjour Lélie, eh bien écoutez, cette semaine je vais vous parler de sagesse, le thème est tout à fait en accord avec l'émission. Comme vous le savez, donc, le Monde des Religions pour son numéro de septembre-octobre a préparé un dossier sur les grands sages de notre temps. Donc en fait on vous propose dans ce dossier de partir à la rencontre de personnalités fortes qui incarnent vraiment cette spiritualité authentique. Donc on passe de Thich Nhat Hanh à Khandro Rinpoche, à Annick de Souzenel dont vous nous avez fait le portrait, à Marcel Conche, plusieurs personnalités. Parmi ces personnalités, pour l'hindouisme, on s'est arrêté sur Amma. Et il se trouve justement que Amma vient en France, donc je pense que les auditeurs connaissent tous cette grande personnalité de l'hindouisme qui est considérée comme une sainte en Inde et qui donc consacre sa vie à essayer d'apporter de l'amour aux gens de par le monde en les serrant dans leurs bras. Donc depuis des années qu'elle fait ça, elle a serré plus de 34 millions de personnes dans ses bras, ce qui est tout de même considérable. Et ceux qui ont vécu cette expérience décrivent souvent quelque chose d'extrêmement fort. Donc je voulais signaler aux auditeurs que Amma donc a plusieurs ashrams en France. Il y en a un près de Chartres et un près de Toulon, par exemple. Mais en plus, Amma sera présente en France cet automne. Elle sera tout d'abord présente du 18 au 20 octobre en région parisienne, au Parc des Expositions de Pontoise. Et ensuite, du 2 au 4 novembre, elle sera présente à Toulon, au Zénith de Toulon. Donc c'est une occasion, effectivement, pour vivre cette expérience. Je voulais aussi signaler aux auditeurs que la collection Point Vivre publie justement un recueil de paroles d'Amma, recueil de paroles inédites qui sont là publiés sous la forme d'un calendrier perpétuel, mais qu'on peut lire d'une traite. Ce livre s'appelle « Tout est en vous, paroles d'Ama ». Et c'est un livre, effectivement, qui est très intéressant, qui éclaire à la fois sur la sagesse, disons, spécifique de l'hindouisme, mais plus globalement sur la sagesse universelle.
Merci beaucoup, Virginie.
Dime de donde viene la luz de tu cara.
La semaine prochaine, je recevrai Patrick Vivray et Mathieu Baudin qui viendront nous dire pourquoi, en tout optimisme, ils sont convaincus qu'un autre monde est possible et peut-être déjà là. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Dans cette réflexion critique sur le plaisir qui va amener les philosophes grecs, et notamment deux parmi les plus grands et les plus connus, Aristote et Épicure, à fonder le concept de bonheur. Le mot d'ailleurs bonheur, un petit mot, c'est eudaimonia, signifie avoir un bon daimon. Un daimon, pour les Grecs, c'est un esprit, on pourrait dire, c'est être habité par une force, un esprit, quelque chose qui peut venir du monde divin et qui nous met dans la joie, qui nous met dans un état d'euphorie, qui nous met dans un état joyeux. Et donc finalement, le bonheur a beaucoup trait chez les Grecs avec l'idée un peu de chance, avec l'idée d'avoir un bon daimon. Et on n'a pas tous un bon daimon, on n'est pas tous nés avec un bon destin ou bénis des dieux, on pourrait dire. Ce qui fait que chez les Grecs, il y a quand même une réflexion très intéressante sur ce qui nous rend heureux, et ils ont déjà une certaine réflexion critique sur le fait qu'il n'y a pas d'égalité devant le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose à la fois qui est donné par les dieux, par la chance, par le destin, on dirait aujourd'hui, nous modernes, par les gènes. C'est-à-dire, au fond, il y a des tempéraments joyeux, il y a des tempéraments tristes, il y a des tempéraments optimistes, il y a des tempéraments pessimistes, et si on veut être heureux, vaut mieux être plutôt optimiste, vaut mieux être plutôt joyeux, ça aide beaucoup. Vaut mieux avoir plutôt une bonne santé, vaut mieux plutôt ne pas avoir trop de cadavres dans le placard de l'inconscient familial dans lequel on hérite. Donc finalement, il y a une part effectivement de chance. Alors les orientaux nous diront que c'est pas de la chance, mais que c'est lié au karma et aux vies antérieures. Donc là, on rentre sur un autre débat, mais qui est très intéressant. Mais restons d'un point de vue plutôt occidental, donc il y a une part de chance, mais il n'y a pas que ça. Et Aristote nous dit le bonheur tient pour à peu près une toute petite portion aux choses extérieures, c'est-à-dire le fait d'être né dans telle famille ou telle autre, telle culture, tel pays, telle cité, d'être riche ou pauvre, tout ça c'est très minime. Pour une bonne part, c'est lié à la chance, c'est lié d'avoir un bon destin ou pas. Et puis, pour une bonne part aussi, c'est le travail que nous allons pouvoir faire philosophique qui va nous permettre de progresser. Et donc, il y a pour chaque individu un donné qu'on n'a pas choisi, qui est une telle capacité d'être heureux ou pas. Et puis sur ce donné, chacun peut faire un travail qui va lui permettre de progresser. Pour dire les choses de manière très contemporaine, on pourrait dire que si on a une notation de 1 sur 10, d'ailleurs les sociologues parlent comme ça aujourd'hui, ils parlent du taux de bonheur fixe. Ça va être en fonction de nos gènes, oui c'est pas une expression très romanesque ou très poétique, mais en tout cas ça dit concrètement les choses, c'est qu'on a une certaine capacité à être heureux et quoi qu'il arrive dans la vie on sera toujours à peu près à ce niveau là. Et puis si on fait un travail sur soi, si on décide de progresser, d'être plus heureux, de se libérer de certaines souffrances, de certaines choses qui nous empêchent de nous épanouir, à ce moment-là, on peut effectivement augmenter nos taux de bonheur fixe et accéder à une forme de bonheur plus puissant, plus durable, plus global, plus profond et plus vrai. Et c'est ce que veulent faire les philosophes. Et donc, ils inventent le concept de bonheur en nous disant le bonheur, ça tient d'une part pour la chance, mais ça tient aussi au travail qu'on va faire sur soi. Et Aristote est un des principaux philosophes à réfléchir dans son livre « L'éthique à Nicomaque », qui est un livre, entre parenthèses, que je recommande vivement, parce que la lecture est assez facile. Aristote, qui transmet ce livre à son fils, Nicomaque, qui a été disciple de... Donc Aristote a été disciple de Platon pendant 20 ans, puis à 49 ans, il quitte l'académie pour fonder le lycée, sa propre école, va essayer d'expliquer dans cet ouvrage quel peut être le principe, le but de la vie humaine, et qu'est-ce qui va permettre d'ordonner notre vie et de nous donner une éthique. Et Aristote commence dans son éthique par nous expliquer que tout être humain recherche le bonheur. Il nous dit au fond, le bonheur est le seul but que nous recherchons toujours pour lui-même et jamais pour une autre fin. Et donc il définit le bonheur comme le souverain bien. Nous pouvons rechercher de l'argent pour le confort, le pouvoir pour être connu, alors que nous recherchons toujours le bonheur comme un but en soi. Alors toute la question qu'il pose, c'est quelle est la nature du bonheur? Qu'est-ce qui peut nous rendre globalement et durablement heureux? Aristote souligne aussi un point crucial, c'est que le bonheur dépend de la nature de chacun. La nature d'un artiste, c'est de créer, et donc il sera heureux lorsqu'il va créer. Un homme qui aime le travail manuel, il sera heureux lorsqu'il fera un travail manuel. Un intellectuel sera heureux lorsqu'il travaillera sur les concepts. Et donc il y a une dimension subjective du bonheur. Chacun atteint son bonheur en réalisant sa propre nature, et donc la propre nature de chacun peut varier, ce qui fait que la première chose à tenir compte, c'est de se connaître pour réaliser sa nature. Et en réalisant notre nature, ce pourquoi nous sommes faits, on rejoint ici l'injonction socratique « connais-toi toi-même », on peut arriver à découvrir ce qui nous épanouit, ce qui lui permet à notre nature de s'épanouir. Mais ça ne suffit pas, et pour Aristote, il doit y avoir également une morale du comportement. Et donc, la recherche principale du bonheur chez Aristote va porter sur la vertu. Et Aristote va nous montrer que l'action juste reposera sur la vertu. Et la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est un juste milieu entre deux excès. Et il nous donne plusieurs exemples. Par exemple, le courage est une vertu, mais le courage, c'est un juste milieu entre deux excès. Les deux excès, c'est d'un côté la lâcheté, et d'un autre côté, la témérité. Puisque si on est lâche, on ne sera pas vraiment heureux parce qu'on va fuir devant les dangers, mais si on est trop téméraire, on va mourir parce qu'on va courir trop de dangers. Et donc, il faut être dans un juste milieu entre deux extrêmes. Pareil pour la tempérance. La tempérance est une vertu entre deux extrêmes. La débauche d'un côté, celle de donner libre cours à toutes nos pulsions, tous nos désirs, tous nos instincts sans esprit critique. Et puis l'autre extrême, c'est l'ascèse, le refus du plaisir. Et donc Aristote dit, on ne sera pas heureux dans l'ascèse, on ne sera pas heureux dans la débauche. Il faut trouver un juste milieu. Donc il définit la vertu comme un juste milieu entre deux excès. Et c'est la pratique de la vertu qui nous rendra heureux et qui nous permettra aussi de vivre heureux dans la cité. Puisque pour Aristote, il est très important que l'homme tienne sa place dans la cité. Il met d'ailleurs le politique au-dessus de l'éthique. Il met le bonheur collectif au-dessus du bonheur individuel. Et puis, autre élément très important chez Aristote, il nous montrera que les deux expériences les plus fondamentales qui permettent à l'homme et à tout être humain, nous dit-il, pas simplement tel être humain selon sa nature, mais à tout être humain, on pourrait dire que c'est presque des réalisations universelles, d'être heureux, c'est l'amitié et la contemplation. Puisque pour Aristote, la chose la plus essentielle qu'on doit vivre comme expérience pour s'épanouir, c'est la relation, la qualité de relation avec les autres, qu'il appelle l'amitié. Et d'ailleurs, l'amitié, philia en grec, c'est aussi l'amour. C'est pas simplement l'amitié virile. Ça peut être l'amitié entre un homme et une femme, ou entre, on dirait aujourd'hui, deux hommes et deux femmes, qui s'aiment profondément, qui décident de construire quelque chose ensemble. Et donc, pour Aristote, l'amitié, c'est toutes les relations d'amour vraies, fondées sur une réciprocité qui fait qu'on a plaisir à voir son ami et à construire quelque chose avec lui. Et donc, à se voir pour ça. Il y a toujours, pour Aristote, un objectif dans l'amitié. Il y a quelque chose qu'on partage, il y a quelque chose de commun. Ça peut être la fondation d'une famille pour un couple, ça peut être une activité de loisir, un sport qu'on partage, une activité musicale, le fait de manger ensemble, mais il y a toujours quelque chose qu'on aime partager ensemble, qui nourrit l'amitié. Et puis la deuxième grande expérience fondamentale, c'est la contemplation, qui est une amitié avec le divin. Et donc la vie contemplative, c'est pour Aristote un des sommets du bonheur, puisque notre esprit, le nous chez les Grecs, est fait pour contempler le divin. Donc voilà, en quelques mots, comment Aristote explore cette voie vers le bonheur. Et nous verrons la semaine prochaine comment Épicure, un autre grand philosophe athénien, va également explorer la piste du bonheur.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Et dans un instant, le journal de la rédaction de France Culture. Bon dimanche à tous.